pour certains, est considéré comme un roman. Pour d'autres, c'est un livre que tu devrais même pas lire, que c'est passé date. Pour d'autres encore, on dit que c'est le livre le plus vendu, mais c'est le livre qui ramasse le plus de poussière aussi dans le monde. Et puis, aujourd'hui, je vais parler du fait que la Bible est un livre unique. La définition du Larousse pour le mot unique, c'est qui se distingue des autres par son originalité et ses qualités. Un expert qui a étudié les ouvrages orientaux de l'Est pendant 42 ans a étudié les anciens manuscrits. Il s'appelait Monsieur William et il a dit à propos des écrits de la Bible, lorsqu'il comparait la Bible avec tous les écrits anciens qu'il avait étudiés, il a dit ceci. En temps céleste, si vous voulez, sur le côté gauche de votre table de travail, mais mettez votre Bible sur le côté droit, toute seule et sans rien d'autre. Séparez deux d'un grand espace, car il existe un abîme entre elle et les prétendus livres sacrés de l'Orient. Un abîme total, désespérant et éternel. Un gouffre qu'aucune science de la pensée religieuse ne saurait franchir. Et donc, aujourd'hui, je veux parler du fait que la Bible est un livre qui est différent des autres par sa continuité. Par la continuité, ce que je veux dire par là, c'est qu'elle raconte une histoire du début jusqu'à la fin, sans se contredire, dans une unité qui fait peur. Okay? Dans une unité qui est assez fascinante. Elle a 66 livres, elle est composée de 40 auteurs, environ 40 auteurs, et c'est un livre qui se tient complètement. Aujourd'hui, mon but n'est pas de prouver que la Bible est inspirée par Dieu ou de source divine, mais qu'elle est unique et sans rival. Il n'y a pas un autre livre dans le monde qui peut compétitionner avec la Bible. On va regarder un petit peu en tous les éléments qui feraient qu'elle pourrait être complètement contradictoire et que ses auteurs seraient l'un contre l'autre. On va regarder tous ces points-là. Ces facteurs naturels-là qui feraient que normalement, tu serais supposé de retrouver un livre disparate et contradictoire. Donc, tu l'as dit tantôt, ça a été écrit sur une longue période d'années. Donc, ça a été écrit sur une période de 1500 ans. Ça a été écrit par au moins 40 auteurs. Il y a des livres qu'on ne connaît pas la source, fait qu'on dit que c'est à peu près 40 auteurs. Le livre des Hébreux, certains pensent que c'est Paul, d'autres disent non, c'est un juif qui fuit Jérusalem en l'an 67. Donc, il y a certains livres comme ça qu'on n'a pas l'autographe nécessairement de l'auteur, mais ils portent les marques de livres inspirés. Donc, il y a au moins 40 auteurs. Dans ces auteurs-là, il y a des rois, des chefs militaires, des bergers, des paysans, des philosophes, des pêcheurs, des collecteurs d'impôts, des poètes, des musiciens, des hommes d'État et des érudits. Donc, en exemple, il y a par exemple Moïse, c'était un chef politique qui était juge et entraîné par les universités d'Égypte. David était roi, poète, musicien, berger et guerrier. Amos était gardien de troupeau. Josué, général d'armée. Néhémie, chef de la sécurité du roi de Babylone. Daniel était premier ministre. Salomon, roi et philosophe. Luc, médecin et historien. Pierre était pêcheur, Matthieu collecteur d'impôts, Paul était rabbin et entrepreneur, il fabriquait des temples, et Marc, secrétaire de Pierre. Donc, on voit des gens, tous ces facteurs-là qu'on est en train de nommer, ne parlent pas pour la continuité, ils ne parlent pas pour quelque chose qui est uni, ça parle de divergence, de gens qui ne se sont pas vus sur une période de 1500 ans. Hein? Donc, si tu veux avoir quelque chose qui ne se tient pas, prends des gens sur 1500 ans qui ont des métiers différents puis demande-leur d'écrire une histoire. Tu sais. Et donc, c'est pour ça qu'elle est remarquable, la Bible. On va parler de sa continuité un peu plus tard. Elle a été écrite dans divers endroits, dans le désert, par exemple, avec Moïse. Enfermée dans une prison, on a Paul, Jérémie, hein, qui était emprisonné. En fuite, caché dans les grottes, David. En voyage. Paul, emporté dans, loin de son domicile, Ésaïe, puis la plupart des petits prophètes. On a en exil sur une île, on a Jean sur l'île de Patmos qui va écrire l'Apocalypse de Jean. Donc, c'est écrit dans des endroits vraiment différents. C'est aussi écrit dans diverses périodes, dans des temps de paix et de prospérité. Par exemple, pensez à Salomon. Tout le long de sa vie, il n'y a pas eu de guerre durant le temps qu'il a été roi. Et dans des temps de guerre, la vie de David est un bon exemple de ça. Ça a été aussi rédigé dans divers tons, au sommet de la joie, à partir de la profondeur de la tristesse et du désespoir, quelques-uns dans des périodes de certitude et de conviction, et au milieu de la confusion et du doute. Donc, tu as des gens qui ont des humeurs différentes. Il y en a qui sont dans des temps de guerre, d'autres dans des temps de paix. Donc, tu as des gens de différentes strates de la société qui ne se sont même pas parlé entre eux, qui ont participé à écrire ces 66 livres-là. En plus de ça, ils viennent de trois continents différents, l'Asie, l'Afrique et l'Europe, en Italie, plus précisément. Et la Bible a été écrite dans trois langues différentes. Dans l'hébreu, qui est aussi appelé la langue des judéens ou la langue judaïque, est aussi appelée la langue de Canaan. Vous avez ça, bon, je n'ai pas besoin de donner des versets, mais bon, je vais le donner pareil pour l'enregistrement. 2 Rois 18, 26, Néhémie 13, 24, Néhémie 13, 24, et Ésaïe 19, verset 18. L'hébreu, c'était la langue avant que le peuple soit déporté en Assyrie et à Babylone. Donc, avant qu'il y ait une déportation, 622, puis je pense que c'est 639 dans ce coin-là, il y a eu des déportations d'Israël dans des pays étrangers. Et à Babylone, là, avant ça, c'était la langue qu'on utilisait. C'était une langue qui était imagée, OK? C'était une langue aussi qui décrivait le mouvement. C'est-à-dire que l'hébreu, c'est ce que je lisais aujourd'hui, c'est qu'on pouvait voir un panorama en mouvement. Certaines expressions judaïques, comme les suivantes, le démon. Il se leva et partit. Il ouvrit les lèvres et dit. Il leva les yeux et vit. Il éleva la voix et pleura. Donc, c'est une langue qui montre un mouvement, des choses en mouvement. Intéressant. L'autre langue, c'est l'araméen. L'araméen, c'est la langue que, quand on était en déportation, c'est une langue qui avait plus de vocabulaire. C'est une langue qui était parlée et écrite après la déportation jusqu'à Alexandre le Grand, qui est grec. Okay? Donc, c'est proche de l'hébreu. Ça a un vocabulaire plus complet. On parle de voyelles, tandis que dans l'hébreu, c'était des points ou des barres, sur les consonnes qui faisaient les sons des voyelles. Donc, c'était une langue plus complète. Il y avait aussi les participes qui s'étaient ajoutés, puis le verbe « être » se jumelait à d'autres verbes pour donner plus de précision sur les verbes. C'était simple, précis, c'était clair. Et finalement, la Bible est écrite en araméen en passant, quand que Jésus dit sur la croix « Eli, Eli, lama sabachthani », il dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est en araméen qu'il le dit. Le livre d'Esdras est écrit majoritairement en araméen, puis le livre de Daniel aussi a plusieurs de ses chapitres qui sont en araméen. Des livres qui ont été écrits en déportation ou après la déportation. Donc, c'est ça pour les langues. Donc, on a des gens qui parlent différentes langues, dont le grec. Le grec, c'est la langue qui était parlée dans le monde entier au temps du Nouveau Testament, comme on pourrait dire aujourd'hui que l'anglais, c'est la langue du monde. Commercial. Donc, dans ce temps-là, on avait pris le grec classique des philosophes, puis on l'avait rendu koiné, c'est-à-dire la langue parlée du temps. C'était le grec parlé du temps. Et c'est à cause des croisades d'Alexandre le Grand qui, après l'Empire perse, Babylone et tout ça, Alexandre a conquéri le monde de son temps et ils ont hellénisé le monde. Ça voulait dire de transmettre la culture grecque. Dans toutes les nations qui sont allées, et donc c'est devenu le langage commun au temps du Nouveau Testament. Donc c'est pour ça qu'on a un Ancien Testament en hébreu et en partie en araméen, et qu'on a un Nouveau Testament en grec. 300 ans avant Jésus-Christ, on a traduit tout l'Ancien Testament aussi en grec pour faire une version qui s'appelle la Septante, la version des 70. On a pris 70 érudits qui connaissaient la langue grecque, qui ont traduit tout l'Ancien Testament qui était en hébreu et en araméen, l'ont ramené en grec. Okay? Et donc, c'était une langue précise qui permettait une justesse quand on disait des mots. Par exemple, il y avait trois mots pour le mot « amour » et le Nouveau Testament choisit juste d'en utiliser deux. C'est l'amour « agapé » et l'amour « philéo », par exemple. Donc, un amour qui était plus... Il y en a un qui était un amour quasiment inconditionnel, puis l'autre, c'est un amour qui était réciproque. Elle laisse de côté le mot « éros » parce que dans le temps, le mot « éros » pour « érotique » était utilisé par les contemporains du Nouveau Testament pour parler de vulgarité plus que de... Donc, le Nouveau Testament a choisi de ne pas adresser ce mot-là nécessairement, de ne pas utiliser ce mot-là. Il y a, par exemple, « un autre ». Dans le grec, « un autre », en français, « un autre », François, il y a deux types pour « autre ». Tu connais-tu les deux dans le grec? Donc, dans le français, quand on dit « un autre », il y a combien de sens à « un autre »? Oui, puis dans le grec, il y en a deux. Il y a un autre de la même nature, de la même catégorie que. Quand Jésus dit « je vous enverrai un autre consolateur », le mot « autre », ça veut dire « un de la même nature que ». Donc, Jésus est en train de dire « un pareil comme moi, je vais vous l'envoyer ». Mais quand il dit qu'il va faire une autre terre, où la justice et la paix vont habiter, il va dire le mot c'est un autre d'une autre catégorie. Donc, un jour, Dieu va faire une nouvelle terre et des nouveaux cieux. C'est un autre type de terre. Okay? Donc, dans le grec, le mot « autre » peut avoir plusieurs sens, soit un de même catégorie ou un d'une autre catégorie. Okay? Et la même chose pour le mot « connaissance ». Donc, tu peux avoir épignosis, gynosko, tu as plusieurs mots pour connaître. Connaître expérimentalement. Connaître la connaissance précise du centre d'une chose. Donc, tu as plusieurs mots pour connaissance dans le grec qui nous aident vraiment à distinguer beaucoup de choses. Alors, on a des gens qui parlent trois langues différentes, qui viennent de différents continents, qui parlent sur divers tons d'humeur, dans des périodes de temps de guerre et de paix, de différents endroits, que ce soit en prison, en voyage, en déportation, au sommet de leur gloire. 40 personnes différentes, puis 1500 ans de distance. Il y a plusieurs styles littéraires aussi, un éventail de styles littéraires. Il y a de la poésie, il y a des récits historiques, il y a des chants d'amour, des traités d'enseignement, des lettres privées d'un à l'autre, comme Paul qui écrit par exemple pour son esclave Onésime, il va écrire à Philémon, des mémoires, tout ce qui s'est passé dans la vie des rois, un roi donnant naissance, puis là son fils ne marcha pas dans les voies du Seigneur, tout ça. Donc des mémoires, des satires, on se moque de la pensée de notre temps, comme l'Ecclésiaste est un livre très satirique, en moquant qu'est-ce qui est la pensée de l'homme sous le soleil. De la biographie, des autobiographies, des textes juridiques, la prophétie. Donc, plusieurs éventails de styles littéraires, des paraboles et des allégories. La Bible aussi, elle adresse des sujets controversés, comme, et elle le fait de la Genèse à l'Apocalypse, puis elle ne se contredit pas. Elle parle sur le mariage et le divorce, sur l'homosexualité, elle parle sur l'adultère, l'obéissance aux autorités, qu'est-ce que la vérité et le mensonge, le développement du caractère d'une personne, le rôle des parents, la nature, la révélation de Dieu, comment Dieu s'est révélé dans la nature, dans la conscience, dans les Écritures. Et dans tout ce qu'on vient de voir, là, c'est la recette pour la contradiction. Tout ce qu'on vient de voir à gauche, là, tout, c'est les critères pour de la contradiction. Et pourtant, on a, et c'est pourquoi je dis que la Bible est unique par rapport à sa continuité, c'est qu'on a le scénario d'une histoire ininterrompue. Une histoire ininterrompue. Il y a cinq grandes vérités qu'on retrouve du début jusqu'à la fin. On voit l'origine du monde, l'origine du mal, la solution pour le mal, le but de la vie et la fin de toutes choses, telles qu'on les connaît. Donc, du début jusqu'à la fin, il y a une histoire qui est décrite par ces cinq points-là, l'origine du monde, l'origine du mal, la solution pour le mal, le but de la vie et la fin de toute chose. Et c'est une histoire sans contradiction, du début jusqu'à l'autre, nous expliquant ces cinq choses-là. On voit que dans Genèse, il y a un paradis qui a été perdu, un arbre qui s'appelle l'arbre de la vie, auquel l'homme est privé d'accéder. Et on le retrouve dans l'Apocalypse, qu'est-ce qu'il y a au milieu du paradis? Au milieu de la Nouvelle Jérusalem, un arbre qui s'appelle l'arbre de la vie, et là, tout le monde y a accès. Donc, l'Apocalypse est le paradis retrouvé du paradis perdu de Genèse. Et donc, de Genèse à Apocalypse, c'est cette histoire-là entre les deux arbres, on pourrait dire. OK? Et donc, une autre façon précise de présenter cette histoire continue-là, c'est de l'appeler l'histoire de la rédemption. Rédemption veut dire racheter. Hein? Donc, c'est l'origine de l'homme, la chute de l'homme, le rachat de l'homme pour qu'il puisse être transformé durant sa vie sur la terre et sa joie éternelle lorsqu'il sera devant Dieu qui est saint et gracieux et puissant. OK? Donc, on a une histoire ici qui est continue. Et on voit aussi dans cette histoire-là qu'il y a un personnage qui ressort, c'est Dieu qui se fait connaître dans la personne de Jésus-Christ. OK? Et là, on voit encore une fois, regardez bien ça, on va regarder l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, il y a des livres de loi, et la loi sert de fondement pour Christ, parce que Christ, quand il vient accomplir la loi de l'Ancien Testament, donc elle est le fondement pour sa venue. Les livres historiques, tous les livres qui racontent des histoires, nous racontent la préparation pour Christ. Donc, les livres historiques nous montrent que, comme Galates 4.4 dit, « Mais lorsque le moment fut vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif. » Donc, quand les moments furent venus, les livres historiques nous montrent qu'il y avait un temps pour la venue de Jésus-Christ. Et ces temps-là qui l'ont précédé préparaient la venue du Seigneur Jésus-Christ. Les livres poétiques aspirent à un Messie qui va venir. Les livres prophétiques attendent un Messie qui va venir. Les accomplissements prophétiques sont un moyen vraiment formidable pour établir que la Bible est le livre qui nous a été donné par Dieu. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça qu'on parle simplement. On fait juste dire que la prophétie, les écrits prophétiques attendaient le Christ. Donc, hein? L'attendre, les soupirs. Dans les poèmes, tu vois même des psaumes qui attendent le Messie. Ouais. Qui ne sont pas nécessairement une prophétie en soi, mais tu vois que les livres poétiques... Oui, il y a cette aspiration-là au Sauveur qui va venir. Le Nouveau Testament, lui aussi, est pour Christ, parce que les évangiles manifestent la venue historique de notre Seigneur Jésus, tandis que les actes montre comment les disciples de Jésus-Christ ont répandu le message de Jésus-Christ. Les épîtres interprètent les enseignements de Jésus-Christ. Puis l'Apocalypse dévoile le retour glorieux de Jésus-Christ. Donc, tu as toute une histoire, là, l'Ancien Testament qui prépare la venue de ce personnage-là, Dieu fait homme. Puis le Nouveau Testament qui le magnifie pour avoir venu. OK? Donc, quand on comprend le message global de ce que je viens de montrer là ou dans la setup précédente, là, les cinq points, quand on comprend ce message global-là, toutes les parties de la Bible font du sens. Et il y a un homme qui s'appelle F.F. Bruce qui a dit « La Bible présente une unité qui relie le tout et fait un ensemble. Une anthologie est l'œuvre d'un anthologiste, mais la Bible n'est pas l'œuvre d'un tel personnage. Mais qu'est-ce qu'un anthologue? Ou qu'est-ce que l'anthologie? Selon la définition du dictionnaire dictionary.com, je l'ai traduit, c'est un livre ou une collection d'écrits sélectionnés de plusieurs auteurs, habituellement dans la même forme littéraire et dans la même période. » Donc, quelqu'un qui prend des auteurs qui ont été écrits 300 ans avant Jésus-Christ. Il prend des auteurs qui écrivent de la même région. Il prend plein d'auteurs, puis il les met ensemble, puis il fait une œuvre anthologique. Okay? Donc, un anthologue, c'est quelqu'un qui va récupérer ces auteurs-là. Alors, M. Bruce dit, « La Bible présente une unité qui relie tout et fait un ensemble. Une anthologie est l'œuvre d'un anthologiste, mais la Bible n'est pas l'œuvre d'un tel personnage. » Donc, la Bible, ce n'est pas un ramassis de livres qu'on a trouvés puis qu'on a dit, tiens, on va appeler ça la Bible. C'est même, chacun des livres, on pourrait dire que c'est un chapitre dans un livre qui est la Bible. Souvent, on va dire, il y a le livre de Daniel, le livre de chacun des auteurs. On ne se trompe pas quand on dit ça. Par contre, c'est un livre. C'est, OK. Je pense que vous avez saisi l'idée qu'on n'a pas ramassé des livres de différents auteurs qui ont écrit sur une même période. Ce n'est pas ça du tout, hein? C'est sur 1500 ans. Pour démontrer que la Bible, ce n'est pas une anthologie, c'est-à-dire un ramassis de livres qu'on a appelé ça la Bible ou un divin, je vais vous parler d'une compilation de livres qui s'appelle « The Great Book of the Western World », « Les grands livres du monde occidental ». OK? Donc, ces gens-là, ces auteurs-là, ce sont des auteurs qui ont été écrit sur 2500 ans. Donc, on a ramassé ça. On parle de 100 auteurs qui ont écrit à peu près 450 œuvres qu'on a regroupées dans ce répertoire qui s'appelle « Les grands livres du monde de l'Ouest ». On parle de Homère, Platon, Aristote, Plotin, Augustin, d'Aquin, Dante, Hobbes, Spinoza, Calvin, Rousseau, Shakespeare, Hume, Kant, Darwin, Tolstoy, Whitehead, Joyce, etc. Okay? Donc, ces gens-là ont tous quelque chose en commun. Ils ont tous la pensée occidentale. OK? Ça veut dire que si on sépare le monde en Est et Ouest, ils sont de notre côté. Okay? Donc, ce n'est pas oriental, Moyen-Orient, Asie. C'est la pensée, l'Empire romain divisé en deux, Est et Ouest, la pensée de notre côté de l'Occident. Ils ont une conception de base semblable, mais des opinions différentes sur presque tous les sujets. Plusieurs des sujets qu'ils abordent combattent et contredisent leurs voisins. Donc, on va faire une supposition. On va dire que dans ces 450 livres-là, on va prendre les auteurs juste qui ont existé dans une même période de 10 ans, 10 auteurs qui viennent du même endroit, de la même période et qu'ils ont la même tendance, qui viennent du même continent, qui parlent la même langue et qui traitent d'un sujet controversé. La question est, est-ce que vous pensez qu'ils seront tous d'accord entre eux? Hein? Non, hein? Bien, Josh McDowell, dans son livre « Le complément d'enquête », il y a le gars qui vendait ces livres-là, justement, il a posé la question et la réponse que le gars lui a répondu, c'est il a réfléchi un petit moment et il a répondu non. Alors, il lui a dit, mais c'est quoi qu'on aurait si on n'a pas quelque chose d'unifié, qu'est-ce qu'on aurait? Et il lui répondit, un assemblage hétéroclite, donc quelque chose qui ne va pas ensemble, quelque chose de très différent qui ne va pas ensemble. Et deux jours plus tard, cet homme-là donnait sa vie à Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, mon message, j'ai réécrit, j'ai pris tout ce que je vous ai raconté, puis j'en ai fait un petit paragraphe. Un livre qui est rédigé sur 1500 ans par au moins 40 auteurs, dont plusieurs ne se sont pas rencontrés, provenant de plusieurs types d'arrière-plan de vie, parlant ou écrivant en trois langues différentes, sur trois continents différents, parlant sur des sujets controversés, avec une harmonie étonnante, plaçant le fondement d'un sauveur, racontant la préparation historique et éveillant le désir de ce sauveur par la prophétie et la poésie, relatant sa venue, l'expansion de son enseignement, interprétant son enseignement et annonçant sa deuxième venue dans la gloire, dans une seule histoire résumée par l'origine, la chute, la rédemption, la transformation et la glorification des hommes mériterait au moins d'être examinée, et ce faisant, le lecteur sérieux découvrira grâce à Dieu le Sauveur présenté dans la Bible. C'est une longue phrase, hein? Donc, ici, à soir, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas dit que la Bible était le livre envoyé par Dieu. On a dit que le livre était unique et qu'il mériterait, hors de toute autre œuvre qui a été écrite dans le monde, notre attention. Alors, on va arrêter l'enregistrement là, puis on va continuer avec les questions. Oui?
Est-ce